transatlantique est désormais une réalité.
Bonjour dans le fil de l'histoire aujourd'hui, quatrième épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'OTAN. Pourquoi en 1949 a-t-on créé l'OTAN ? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historienne Jenny Raflick. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la France, en 1950, a réclamé la présence sur son sol de bases et de troupes américaines, jusqu'à ce qu'en 1966, De Gaulle décide la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN.
Pour les zones occidentales aussi, l'avenir se précise et Bonn a pavoisé à l'occasion de la proclamation de la nouvelle constitution fédérale adoptée par les représentants des Länder. Le docteur Adenauer, le professeur Wolleb pour le pays de Bade, le docteur Reuter pour Berlin-Ouest et le président Müller pour le Württemberg ont apposé leur signature. L'Allemagne de l'Ouest existe.
Pendant toute la guerre froide, le principal point de crispation en Europe est l'Allemagne. Depuis 1945, le pays est partagé en deux grandes zones. L'Ouest, sous contrôle américain, britannique et français. L'Est, sous domination soviétique. Une partition qui aboutit en 1949 à la création de deux États distincts. À l'Ouest, la RFA, République fédérale allemande. À l'Est, la RDA, République démocratique allemande. En 1949, le Britannique Lord Ismay, premier secrétaire général de l'Alliance, déclarait, je cite, « Il faut garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands sous tutelle. » Le Royaume-Uni, en effet, comme la France, s'oppose à tout prix au réarmement de l'Allemagne. Mais à cause de sa situation géographique en première ligne face au bloc de l'Est, c'est pourtant ce que les Américains réclament et qu'ils obtiennent en 1955 avec l'intégration de la RFA à l'OTAN. La réaction de l'URSS est immédiate. Nikita Khrushchev, le leader soviétique, décide de fonder en miroir de l'OTAN une organisation de défense des pays du bloc communiste, le Pacte de Varsovie, qui officialise l'autorité soviétique sur les armées des démocraties populaires. Ce sont les armées du pacte de Varsovie qui, en 1968, écraseront le printemps de Prague. Désormais, et jusqu'à la chute du bloc soviétique en 1991, les forces armées de l'OTAN et celles du pacte de Varsovie se font face en Europe, mobilisant des moyens colossaux en hommes et en matériel, massés pour l'essentiel de part et d'autre de la frontière entre les deux Allemagnes. Avec des armes conventionnelles, mais aussi nucléaires, ce face-à-face inquiétant ne se traduira curieusement par aucun affrontement armé. Pendant la guerre froide, la seule crise vraiment dangereuse a encore pour théâtre l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle la deuxième crise de Berlin.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Inter, actualité.
Berlin domine et de loin toute l'actualité de ce dimanche 13 août. Au fait, on ne s'est pas beaucoup aperçu que c'était dimanche dans les salles de rédaction aujourd'hui. Depuis le milieu de la nuit dernière, les téléscripteurs et les téléphones n'ont pas cessé de cliqueter, de sonner. Au milieu de la nuit, ce que l'on craignait depuis quelques jours s'est produit. La frontière entre les deux parties de la ville de Berlin, l'orientale et l'occidentale, a été soigneusement verrouillée. La protestation officielle est sans doute une question d'heure maintenant.
Le 13 août 1961, donc, en se réveillant le matin, les Berlinois découvrent avec stupeur que pendant la nuit, un mur a été érigé au milieu de la ville, coupant Berlin en deux. D'abord sous la forme d'un rideau de fil de fer barbelé, puis un mois plus tard, d'un véritable mur en béton et en briques, monté par des maçons réquisitionnés, sous la surveillance de 15 000 policiers et de miliciens est-allemands qui bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. En une nuit, Berlin-Ouest se retrouve isolé en plein bloc communiste. À l'est, des habitants tentent de fuir en sautant par-dessus les barbelés ou en franchissant à la nage la rivière de la Spree, prenant le risque d'être abattus. La construction du mur a été décidée en secret par Khrushchev, qui veut au plus vite stopper le flot incessant de citoyens est-allemands qui fuient vers l'ouest en passant par Berlin, jusqu'alors le seul point de passage. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes à intervenir. En réalité, la réaction des Alliés tarde. Malgré les protestations du maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, le futur chancelier allemand, qui appelle à l'aide les États-Unis, et des habitants qui crient à la trahison et à l'abandon. Le moment le plus chaud de cette crise advient le 27 octobre 61 à Checkpoint Charlie, un des postes frontières entre les deux zones de Berlin. Ce jour-là, des gardes frontières est-allemands refusent le passage d'un officiel américain. La tension monte très vite. Pendant 16 heures, 10 chars américains et 10 chars soviétiques se postent de chaque côté de Checkpoint Charlie. Finalement, les blindés se retirent. Ni l'OTAN, ni le pacte de Varsovie n'a voulu déclencher une escalade qui aurait risqué de se terminer en guerre nucléaire. Jenny Raflick, c'est étonnant, de 1949 à 1991, il n'y a pas de crise majeure en Europe pendant la guerre froide.
Il n'y a pas de crise majeure et en même temps, il y a des tensions permanentes et la situation est d'une fragilité constante. On le voit, n'importe quel petit incident de frontière peut dégénérer. Tout le monde est sur le qui-vive et c'est peut-être justement parce que tout le monde est sur le qui-vive qu'il n'y a pas de crise majeure. C'est-à-dire que la vigilance est telle que de chaque côté, on est quand même prêt à des compromis pour éviter de perdre complètement le contrôle. Et chacun cherche à garder ses avantages. Et donc, si on perd le contrôle de la situation, on peut tout perdre aussi. Et donc, les crises majeures, elles vont avoir lieu ailleurs dans l'arc de crise, hein, dans ce qu'on va appeler le tiers-monde, toujours au sens guerre froide du terme, c'est-à-dire le troisième bloc, et par toujours, finalement, des acteurs interposés.
Donc la stratégie de l'OTAN fonctionne. Est-ce que c'est dû principalement à la dissuasion nucléaire ?
C'est dû à la dissuasion nucléaire, mais c'est dû aussi à une forme de pragmatisme des deux grands. C'est-à-dire que les dirigeants soviétiques comme les dirigeants américains, et quels qu'ils soient, puisque les présidents américains se succèdent et les dirigeants soviétiques aussi, restent toujours extrêmement prudents quand il s'agit de la situation européenne. Il y a deux zones d'influence, et finalement, chacun va respecter la zone d'influence de l'autre. En tout cas, jusqu'à la fin de la guerre froide, puisque finalement, c'est quand les Américains vont commencer à soutenir Solidarność en Pologne, qu'on a une véritable ingérence dans l'aire d'influence de l'autre. Sinon, on respecte. Et finalement, les Occidentaux laissent, par exemple, les Hongrois se faire massacrer au moment de la répression.
Et en 68, pareil, à Prague.
Et pareil, voilà, à Prague. C'est pas leur zone d'influence. Et donc, quelle que soit la gravité des événements, ils condamnent, mais ils n'interviennent pas.
Et ce sera un peu la même situation aussi à Varsovie lorsque le général Jaruzelski instaurera l'état d'urgence.
Voilà, il n'y a pas d'ingérence dans la zone d'influence de l'autre.
Il y a tout de même des moments où on a eu chaud en Europe entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Je pense particulièrement à la crise des euromissiles au début des années 80, le déploiement à l'Est de missiles soviétiques, les SS-20, tandis qu'à l'Ouest, l'OTAN commence le déploiement de ses missiles Pershing 2 avec des manifestations pacifistes énormes à l'automne 1983.
Alors là, on voit à quel point les Soviétiques, notamment, ont utilisé la force du bloc occidental, c'est-à-dire la démocratie, contre elles-mêmes, en jouant des mouvements d'opinion, en les encourageant, en les nourrissant.
Vous pensez qu'il y a eu une manipulation ?
Alors, ça a été montré. Les gens qui manifestent sont sincères, ils sont pacifistes, mais on aide un petit peu du côté communiste à l'organisation d'un certain nombre de ces manifestations. On fournit quelques slogans, voilà, on va donner un petit peu de matériel finalement à ces manifestants qui, j'insiste, eux sont pour l'essentiel vraiment des
sincères,
pacifistes convaincus et sincères. Mais on a des manipulations d'opinion, alors c'est réciproque, les Américains vont aussi utiliser fortement tous leurs moyens à disposition, notamment le soutien aux dissidents, voilà, pour déstabiliser aussi les régimes communistes. Ça fait partie de ce qui va permettre peut-être aussi de limiter la force de l'affrontement, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres modes d'affrontement, la manipulation de l'opinion publique, l'espionnage, des petites opérations de sabotage, mais ça permet de limiter l'emploi de la force conventionnelle et un affrontement armé plus direct.
Merci Jenny Raflick. Dans le prochain épisode, nous verrons comment des événements inattendus, la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS, vont changer la donne, mais curieusement, ne vont pas provoquer la fin de l'OTAN.